Michel Picot sur BFM Business.
Et bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France. Dans un instant, nous nous intéresserons au marché international et à l'interculturel avec une série de conseils pratiques pour réussir votre développement international. Nous serons avec un expert qui donne des conférences spectacles. C'est nouveau. Nous sommes en compagnie de Laurent Goulvestre. Bonjour.
Bonjour.
Merci
Bonjour Michel.
D'être dans le Business Club. Vous êtes formateur, conférencier et auteur de nombreux ouvrages sur l'interculturel. Et le dernier en date, c'est celui que j'ai sous les yeux, je crois, Les clés du savoir-faire interculturel. On aura l'occasion de publier sur notre blog La Une pour que nos auditeurs puissent bien nous suivre. Juste pour que ça soit clair dès le départ, Laurent Goulvestre, l'interculturel, c'est quoi? Moi, j'ai traduit ça en comment l'art et la manière de connaître son interlocuteur, c'est ça?
Oui, c'est ça. Enfin, bon, en tout cas, merci de me poser la question et ça me donne l'occasion d'en parler de façon détaillée. Donc, l'interculturel, c'est deux choses. Ce sont deux choses. Tout d'abord, c'est comprendre les autres cultures pour mieux travailler avec elles, pour savoir les décoder. Et puis aussi, c'est se comprendre soi-même, c'est se découvrir soi-même, car chacun d'entre nous ne peut sortir de sa culture que s'il a une autre personne pour lui expliquer ce à quoi il correspond. Alors, donc deux éléments.
Effectivement, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'enseigne pas? Est-ce que l'interculturel, finalement, n'est pas un frein à nos PME françaises qui, du fait qu'elles ne savent pas qui est l'autre, ne réussissent pas très bien sur le marché international?
Alors, on ne l'enseigne pas, c'est pas tout à fait juste, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sensibilisé qu'il y a 10 ans par rapport à ça. Et l'interculturel, eh bien, les entreprises, les grosses entreprises, entre autres, sont aujourd'hui sensibilisées par rapport à ça quand même.
Mais c'est votre métier, vous allez faire des conférences dans ces grandes entreprises.
Alors oui, tout à fait. Moi, je fais des conférences de façon originale, sous forme de pièces de théâtre. On en parlera peut-être un petit peu plus tard tout à l'heure. Oui, mais oui, je fais des formations de 2 jours, en français ou en anglais, sur comment, justement, sensibiliser les partenaires pour mieux comprendre les autres cultures.
Alors, est-ce qu'il y a des messages clés dans ces formations, si l'on devait donner, on va pas donner toute la formation, bien entendu, mais peut-être des clés de décodage pour mieux comprendre et pour mieux s'ouvrir aux autres,
Alors, oui, moi, j'en vois 5 particulières. En clé, je peux te dire d'abord le temps, la notion du temps. C'est quelque chose qu'il faut observer chez son partenaire, parce que le temps est totalement différent en fonction des pays où on va.
C'est-à-dire, pour avoir un peu travaillé sur l'Inde, si j'ose dire, la notion de temps n'est pas la même là-bas.
Alors, l'Inde, je crois que c'est l'un des pays, justement, où on a le plus de problèmes, parce que on peut même pousser à l'extrême. Si une tâche n'est pas faite dans cette vie-là, elle sera faite dans l'autre vie.
Ah oui, bah d'accord.
Avec la réincarnation. Donc, l'Inde, oui, c'est vraiment un des premiers piliers phares, surtout quand on travaille dans un pays où on a une considération du temps qui est plus spatiale que linéaire. Un pays qui n'a pas l'habitude de travailler avec, par exemple, avec son agenda.
Ouais.
Il y a des gens qui travaillent sans agenda dans certaines cultures.
Comment on fait dans ces cas-là?
Eh bien, par exemple, quand on va en Inde, il faut s'arranger de confirmer par email notre départ, et puis il faut appeler plusieurs fois son partenaire avant le voyage pour être sûr qu'il a bien compris qu'il va nous recevoir. Ceci dit, on a encore des problèmes. C'est-à-dire que quand je vais en Inde, eh bien, je me réserve toujours 30% de mon temps pour faire des rendez-vous de façon directe une fois que je suis dans le pays.
Est-ce qu'on peut citer peut-être une autre clé de décodage?
Alors, oui, même plusieurs. On peut, par exemple, citer la priorité à la relation ou à la tâche. Il y a des cultures qui vont... les cultures qui travaillent avec leur agenda, ce sera plutôt à la tâche. Donc, les séquences ne se chevauchent pas. Elles s'enchaînent les unes derrière les autres. Et donc, l'agenda est globalement bien respecté. Et puis, les cultures qui donnent la priorité à la relation, eh bien, si le partenaire est bien avec vous, il va rester un certain temps avec vous, même plus longtemps que son agenda l'a prévu. Mmh. Et donc, ce sera la priorité à la relation.
Ça, c'est particulièrement vrai au Japon, où après le bureau, on va boire un saké ensemble.
Entre autres.
Pardon pour le cliché, mais c'est un peu une réalité aussi, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, c'est entre autres vrai pour le Japon, mais c'est aussi vrai aux Philippines, c'est aussi vrai en Chine, où là, la relation est importante. Parce qu'il faut faire, il faut bien connaître son partenaire et il faut développer de la confiance avant de faire des affaires.
Ça serait peut-être là la clé, on va dire, le message clé à faire passer essentiellement, non?
Développer la confiance,
ouais.
C'est un élément fondamental, oui. Alors dans toutes les cultures, vous me direz.
Ouais.
Mais là, de façon encore plus prononcée qu'ailleurs, tout à fait.
Mais là, on parle effectivement d'argent. Alors, effectivement, il y a toute une formation. Et vous allez plus loin, puisque vous, à partir de cette formation, vous faites donc des conférences. Mais ce n'est pas tout à fait des conférences, c'est des one-man show.
Oui, c'est vrai.
Alors, dites-moi, pourquoi ce choix? Est-ce que, parce que vous faites partie des rares hommes de cette planète qui ont fait le voyage Australie-France sans prendre l'avion, qui vous a donné cette envie de proposer des conférences, spectacles? Alors, pardon pour la petite anecdote, elle m'a fait rire, hein, très honnêtement, Australie-France sans prendre l'avion, bref.
Oui, alors j'ai mis 6 mois hein, en remontant par l'Asie jusqu'en Mongolie, en Sibérie, ça c'est une belle aventure.
Imagine, et très enrichissante aussi. Hein,
oui, enrichissante tout à fait.
Ouais.
6 mois hein, en voyageant tous les jours.
Ouais.
Non, c'est parce que je suis passionné de théâtre depuis une quinzaine d'années et je voulais associer l'utile à l'agréable. Et puis aussi parce que dans les conférences, nous voyons systématiquement des PowerPoint. Et les gens en ont marre de voir du PowerPoint. Donc j'ai voulu changer la méthode pédagogique et je me suis dit pourquoi pas faire de l'enseignement mais de façon décalée. Et c'est quelque chose qui marche relativement bien aujourd'hui.
Ouais. Ça se traduit comment ? C'est-à-dire que vous faites des petites scènes finalement de mise en situation entre, on va dire, un entrepreneur français et puis son homologue étranger ?
Alors, pas vraiment. En particulier, j'explique les clés de décodage que l'on évoquait tout à l'heure, la notion du temps, la relation, la tâche, la peur du changement, la notion de collectivisme et d'individualisme, tout cela est expliqué sous forme de piliers culturels, mais surtout avec des objets insolites. Et les gens retiennent cette notion de pilier par ces objets.
Ouais, ouais. C'est-à-dire que finalement, par le visuel, ils le retiennent mieux. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
Tout à fait.
On est quand même dans un monde où l'image prime, hein, même
exactement.
Si nous faisons de la radio aujourd'hui, mais l'image prime. Vous aviez parlé de peur du changement, c'est quoi ?
Alors c'est ce que j'appelle aussi l'aversion à l'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a certaines cultures, et là aussi c'est culturel, il y a des cultures qui n'hésitent pas à avancer rapidement. Je pense à la culture chinoise, à la culture indienne, à la culture américaine, qui sont dans le go for it, let's do it now, yes we can. Et je suis aussi en train de penser à d'autres cultures qui sont plus réservées, où là il faut être sûr que le contrat soit étoffé, qu'il soit bien rempli. Je pense entre autres à la culture française qui a une certaine forme de résistance au changement.
Ouais, ouais. Et cette résistance au changement pourrait expliquer selon vous... Ce sera un des points, hein. Évidemment ça n'explique pas tout, mais que les entreprises françaises aient du mal aujourd'hui à aller sur le marché international, peut-être parce qu'elles ont peur de ces changements, parce qu'elles ont peur...
Entre autres.
D'après ce qu'on vous dit et d'après ce que vous pouvez vous ressentir. Hein,
Oui, entre autres. Alors, bon, ça s'explique par notre culture aussi, cette peur du changement. Mmh. Si on prend les 2 derniers siècles, par exemple, on a connu 3 guerres, mais on a connu aussi des périodes fastes. Et quand on a connu le faste, on a envie que le faste dure, évidemment. Ouais. Et bien, quand on vit relativement bien, et en France, par rapport aux 200 autres pays qu'on a dans le monde, on vit quand même relativement bien. Si on a l'occasion de voyager, on le voit, même si c'est pas toujours facile, évidemment. Eh bien, on a envie de garder cette situation. Et donc, ceci me fait dire qu'il faut, quand on travaille avec une culture à forte aversion à l'incertitude, comme la culture française, il faut toujours rassurer, amener des exemples concrets, blinder le contrat pour avancer. Ce qui ne sera pas du tout le cas pour la Chine, où on a aussi une culture qui est plutôt dans le go for it, comme les Américains. Mais alors que l'histoire n'est pas du tout la même.
Oui, complètement. Ouais. Mais je dirais qu'en période de crise, on pourrait imaginer que les entreprises françaises fassent davantage appel, je dirais, à votre savoir-faire et à votre connaissance, parce que c'est un levier de croissance, le marché international, tout simplement. Et qu'elle souffre toujours, quoi.
Tout à fait. Le marché de l'international, alors l'international, c'est un marché de croissance, parce que même si on dit que c'est la crise en France, il ne faut pas oublier quand même qu'on a un PIB aujourd'hui qui est de 4% environ, donc qui est loin d'être négligeable. Même les pays d'Europe, si on prend la Suède, l'Autriche, l'Allemagne, ce sont des pays qui connaissent quand même une croissance relativement intéressante, hein, même si, encore une fois, on n'est pas dans l'euphorie. Mmh. Donc l'international est vraiment un levier de croissance et il faut y aller, tout à fait.
Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ? Qu'est-ce qui manquerait ? Alors vous, vous battez hein, tous les jours avec des conférences. Maintenant, vous avez fait un spectacle de ces conférences pour mieux faire passer le message. Vous dites que c'est culturel et que ce sont des barrières qu'on s'est créées et qu'on a du mal à aller voir le marché international.
Oui.
La peur de l'autre. Il y a aussi un comportement, je dirais. Moi, je me souviens avoir fait des émissions ici même sur cette antenne où là, on avait effectivement des chefs d'entreprise qui partaient négocier en Inde, qui partaient 3 jours, qui restaient dans un hôtel, qui n'allaient pas vraiment sur le marché, qui repartaient immédiatement après. Ça pose un problème là aussi.
Oui, c'est quand on parle de confiance, en 3 jours, on peut pas établir une confiance. Donc, première chose déjà, c'est que d'aller à l'international, ça se fait pas en one shot, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps. Ça prend du temps d'aller à l'international et on va pas en Inde pour 3 jours.
Voilà.
Et il faut y aller un certain temps. Il faut répéter. Ça coûte cher, mais c'est là qu'est le business aujourd'hui.
Ouais, il faut s'en prendre un peu. Est-ce qu'il y a des bourdes à éviter à l'export?
Oui, il y a des bourdes.
Bien sûr,
il y
en a partout, vous me direz. Oh, mais,
voilà.
mais du fait de connaître certaines autres cultures, parce qu'il y a des choses à ne pas faire dans certains pays.
Oui, bien par exemple, c'est de donner une date à un Chinois, la date de son départ, par exemple arriver en Chine le lundi, de lui dire bien voilà, je suis là pour 3 jours pour négocier avec vous et dans 3 jours je dois repartir. Parce que le Chinois va justement profiter de votre date de départ pour vous mettre la pression. Donc quand on va en Chine, on apporte de la transparence sur la première étape, on dit où est-ce qu'on veut aller avec son partenaire chinois, mais on va pas trop loin non plus parce que il faut avoir une certaine confiance, il faut développer cette confiance et ça prend du temps.
Ouais. D'autres exemples, utiliser l'humour en Suède pour détendre l'atmosphère. Très mauvais goût, pas d'humour là-bas.
Oui, alors, il y a un temps pour tout, c'est comme en Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas beaucoup d'humour dans le travail. Il y a beaucoup d'humour ensuite, mais il y a un temps pour tout. Et c'est vrai qu'il faut savoir que l'humour, eh bien, ça doit s'utiliser d'une certaine manière, à un certain moment, en fonction des cultures.
Et parmi les bourdes aussi, vous aviez noté faire des PowerPoint qui font plus de 5 minutes, mais ça, c'est valable même en France. Arrêtez.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est insupportable.
Quand on va dans beaucoup de pays, on a tendance à mettre trop son produit en avant, sa société, et pas suffisamment à être empathique. Et ça, c'est un élément très, très important pour développer cette notion de confiance et de relations intéressantes avec son
partenaire. Alors, finalement, l'importance, c'est peut-être cette capacité de bien questionner son client étranger pour savoir ce qu'il a derrière la tête et pour pouvoir mieux le connaître et faire du business avec lui. Elle est là, la finalité. Donc, connaître sa culture.
Alors, connaître sa culture, oui, c'est vrai, et puis se connaître soi-même aussi, c'est-à-dire être capable de percevoir les choses fines chez un partenaire japonais, par exemple. Mmh. Un japonais va dire peu de choses, mais un petit rictus va traduire quelque chose qu'il faut savoir décoder. Donc, il faut à la fois connaître l'individu qu'on va rencontrer, le partenaire étranger, mais il faut aussi se connaître soi-même et être en capacité, justement, de changer un peu par rapport à ça.
Merci, Laurent Goulvestre.
Merci à vous, Michel.
Ça passe très très vite.
Merci.
Dans un instant et en ce début d'année, on va faire un focus sur le MOVE, c'est le mouvement des